L'interview matinale, première partie. Ce matin, dans le cadre de notre série de portraits de vigneronnes réalisés avec Véronique Charpentier, photographe pour le coup, et d'ailleurs quelques photos seront visibles cet été normalement, on en reparlera, eh bien ce matin j'accueille Sandrine Piva. Sandrine, bonjour.
Bonjour.
Alors Sandrine, merci d'être là déjà parce que c'est ton mari que nous avions accueilli la dernière fois, Philippe, qui était venu parler en fait de la sortie d'un livre, je crois.
Oui, tout à fait. Oui,
sur le castrum de Pommiers.
C'est ça, sur le château de Pommiers, oui, les 1000 ans d'histoire, tout à fait.
Voilà, et il nous en avait très bien parlé d'ailleurs, et puis on s'est dit, mais peut-être qu'on pourrait venir parler un peu de la vigne, justement, parce que le château de Pommiers, c'est pas... En fait, c'est un... Tu vas me corriger si je m'égare, mais... le castrum de Pommiers, en fait, c'est un ancien, presque mini-village, en fait.
C'est une vieille ville, voilà. C'est ça. C'était la ville de Pommiers, tout simplement.
Ok. Et il y a aussi des vignes autour.
Aujourd'hui, maintenant, il y a des vignes, oui.
Il n'y en avait pas au début.
Certainement qu'au Moyen-Âge, il devait en avoir, mais là, on est beaucoup moins précis là-dessus.
D'accord.
Ça, c'est certain. Mais aujourd'hui, oui, il y a des vignes.
Il y a des vignes. Et justement, ces vignes, bah, c'est un peu le sujet du jour, puisque ces vignes, aujourd'hui, c'est toi qui t'en occupes avec tes frères, en fait.
Oui.
Donc, il y a deux frères.
C'est ça.
Il y a un moins grand que toi et un encore moins grand que toi, puisque tu es l'aîné.
C'est ça.
Ça fait quoi d'être l'aîné ?
Plein de choses. Oui, ça fait beaucoup de choses.
Est-ce qu'on est dans le cliché de c'est l'aîné qui dirige, qui organise, ou c'est quelque chose de plus collégial ?
Alors oui, je suis plutôt partie sur du collégial. On aurait pu faire ça, mais non, c'était pas du tout dans ma philosophie. Non, on est sur du collégial. Bah, après, bon, il y a des décisions qu'il faut prendre, bien entendu. Mais non, on essaye de travailler sur du collégial et malgré nos agendas chargés, on y arrive.
Ouais. Ouais, ben c'est pratique aussi de partager à trois, de travailler comme ça en... on dit quoi, fratrie, du coup c'est encore le masculin qui l'emporte en français,
oui.
Je crois,
et oui.
Pour l'instant.
Oui, oui, complètement.
Il va falloir changer ça un peu à force. Hein. Une fratrie, oui, voilà, une fratrie, ouais. Enfin oui, mais c'est frère, pas sœur, voilà. Excusez-nous, il y a Véronique qui intervient à côté, les auditeurs ne le voient pas forcément. Et alors toute cette histoire, en fait, elle n'a pas commencé à Saint-Félix-de-Fontcaude.
Non.
Du tout, elle a commencé à Morizès, en fait.
Oui.
Et il me semble, je crois, c'est ton père, grand-père, qui a commencé, qui est arrivé. Parce que vous êtes arrivé, en fait, aux origines de cette vague d'immigration italienne qui a eu...
Alors nous, on est arrivé sur la vague de 1924.
D'accord.
Et on n'est même pas arrivé en Gironde, on est arrivé dans le Lot-et-Garonne.
D'accord.
On est arrivé à Pardaillan.
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 Oh, on dirait un nom de mousquetaire.
Non, oui, ça pourrait,
ça
mais
pourrait.
Non.
Oh, je suis Pardaillan. Non, c'est pardon.
Non, on est arrivé à Pardaillan. La famille est restée quelques temps. Ma grand-tante, d'ailleurs, est née à Pardaillan. Alors, moi, je n'ai pas les années exactes quand est-ce qu'ils sont arrivés. À Saint-Laurent-du-Plan, là où est né mon grand-père. Mon grand-père est né en 1935 à Saint-Laurent-du-Plan. Ils étaient déjà arrivés à Saint-Laurent-du-Plan.
D'accord. Et ton grand-père, donc, lui, c'est la vigne qui fait dès le départ ou...
Alors, au début, nous sommes ouvriers agricoles.
D'accord. Okay.
Donc, on va gravir tous les échelons.
Okay.
La famille va commencer en tant qu'ouvrier agricole. Ensuite, on va devenir métayer.
Mmh.
Puis, on va devenir fermier. Et enfin, en 1961, par l'acquisition du château Pouchot-Larquet à Morizès, on deviendra propriétaire vigneron.
Propriétaire vigneron, donc en 1961, une histoire assez récente, alors, finalement.
Oui.
Enfin, je dis ça parce que, oui, pour les jeunes, ça peut paraître loin.
Oui, mais non, c'est récent. Où c'est qu'on est devenu notre propre exploitant agricole, oui.
Et donc, ça, c'était à Morizès. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, du coup, vous vous êtes tous retrouvés à Saint-Félix-de-Fontcaude ?
Alors, ça, c'est un délire fou de mon père quand il avait que 13 ans. Où c'est qu'il allait pêcher avec mon grand-père. Et il pêchait donc sur la Vignague, et il pêchait au bas du château de Pommiers, hein, que l'on connaît plus facilement sous le nom de castrum de Pommiers. Et donc, il pêchait au dos de la chapelle. Et un jour, il dit à mon grand-père, « Tu vois, papa, ce château, eh bien, il sera à moi. » Donc mon grand-père va sourire en disant, « Oui, c'est bien d'avoir des ambitions à 13 ans. »
Au moins, il lui dit pas « N'importe quoi !»
Non. C'est... Non. Bah, voilà, il a fallu que la famille se fasse pour en arriver là où c'est que nous sommes arrivés. Donc, bah, les ambitions, c'est bien d'en avoir.
Oui, bah oui.
Donc, on ne va pas péter les ambitions tout de suite, même si on sait que dans un coin de sa tête, il disait que mon père était fou, parce qu'il lui a dit qu'il était fou le jour où c'est qu'il a avancé qu'il allait l'acheter.
oui, parce que c'est ça. Donc, il a 13 ans, il pêche avec son père. Donc, c'est un moment qui est super chouette, père-fils, etc. Mmh. Et il y a cette petite épingle qui l'accroche sur la carte de son chemin de vie en disant, voilà, là, je serai là. Mais donc, il l'a fait, en fait.
Il l'a fait.
Il l'a acheté, ce château.
Mmh.
Et waouh, mais que c'est-à-dire, en fait, c'est un jour... je crois que l'histoire, en fait, c'est qu'à la base... C'est votre mère qui avait dit 50 mètres carrés à 4, c'est un peu l'edge.
C'est ça. Donc, on habitait dans l'appartement qui collait le magasin de ma grand-mère à Morizès. Donc, c'était dans ce magasin, on y trouvait de tout. Hein. On allait du boulon, on allait faire le plein d'essence. On avait un dépôt de pain, du tabac.
Le magasin de village.
C'était
voilà,
le petit magasin de village. Exactement. C'était la petite. Nous, on l'appelait la station parce qu'il y avait vraiment de tout dedans.
Ouais.
Et donc là, il y avait un petit appartement. Et quand mes parents se sont mariés, ben, ils se sont installés là. Mais c'était vraiment tout petit. Hein, donc moi, je suis arrivée en 83. Mon frère est arrivé en 87. Et là, maman a trouvé que ça commençait vraiment à faire petit. Quand même. Donc elle a juste demandé à mon père de trouver une maison un peu plus grande. Voilà, elle voulait une grande maison pour pouvoir aussi accueillir nos clients. Quand les clients viennent nous rendre visite, ils étaient toujours accueillis chez mes grands-parents parce qu'eux, ils avaient une maison qui était bien plus importante pour pouvoir les recevoir. Et maman, donc, souhaitait une plus grande maison.
Parce que à ce moment-là, au niveau... j'ai peut-être pas fait attention, mais donc, ton père, en fait, a déjà ses vignes à Morizès, c'est ça ?
Alors, donc, quand ils vont acheter en 1961, il n'y a pas beaucoup de terres qu'ils vont acheter au départ. Et ils vont les acheter au fur et à mesure. Enfin, mon grand-père va en acquérir les unes après les autres. Et c'est l'arrivée de mon père, donc en 1960, que je ne me cours pas dans les années... je ne sais plus si c'est 76 ou 78, je veux dire 78
fin
quand
70,
il s'est...
Donc
voilà, quand il est arrivé. Et donc là, ils se sont agrandis. Il a épousé maman et maman a arrêté son travail pour le rejoindre.
Elle faisait quoi
Ah, ma maman était responsable d'un magasin de chaussures.
D'accord, où ça?
Alors, sa dernière étape était à Cadillac, à Eram, aux chaussures Eram à Cadillac.
Le fameux Eram de Cadillac, j'y avais acheté des chaussures. Non,
donc, quand elle a épousé papa en 82, donc elle a arrêté son activité pour l'accompagner, pour le rejoindre dans cette aventure. Et puis, le vignoble était petit pour faire vivre deux familles, donc à la fois mon grand-père et mes parents. Et mon père n'a jamais perdu d'optique de ce château. Alors au début, il n'était pas spécialement en vente ou il n'avait pas bien compris comment ça se...
Oui, parce que c'est bien de le vouloir acheter, mais déjà, il faut savoir si quelqu'un veut le vendre.
C'est ça. Il a fini par trouver. Enfin, c'était vraiment un grand périple de 2 ans.
OK.
Et ils allaient voir d'autres propriétés, d'autres châteaux. Il avait fait part à ma mère de cette passion de vieille pierre. Ma mère a dit, oui, enfin... Bon, pourquoi pas, hein, on ne reste pas fermé,
mais fonctionnel,
on
ne
va pas
même
dire non. Voilà. L'idée c'était qu'on puisse y habiter tout de suite, donc en 89, et puis bon, visiter, puis tout d'un coup, il dit, bon, ben, ça y est, on va signer. Donc quand on arrive, moi j'étais enfant, hein, j'étais enfant,
quel âge à ce moment-là ?
J'avais 6 ans.
6 ans, oui, donc quand même de quoi s'en souvenir.
J'avais 6 ans, et il nous amène là, et c'était un tas de ruines, quoi. Il y avait un tas de cailloux sous un tas de ronces. Là, ma mère a pété un plomb ce jour-là.
C'est le fonctionnel, il est où là ?
Il n'y en avait pas. Ouais. Non, c'est un gros tas de cailloux, hein, vraiment, sous un tas de ronces. Mais véridique, c'était impressionnant à voir, quoi. Et mon père a dit, ben voilà, c'est notre là. Futur chez nous. Non, ma mère n'a pas bien pris au début.
Ouais, non, j'imagine. Et toi, justement, à 6 ans, quand tu vois ça, c'est quoi le est-ce qu'il y a le côté enfant, justement, de dire « Oh, trop bien !» Déjà d'imaginer le château et
mais on
ne
le voyait
ça,
pas, donc non, c'était compliqué d'imaginer.
Ouais.
C'était mais qu'est-ce qu'on... Pourquoi sur un tas de ruines enfin, c'est... Enfin, alors, à l'époque, je n'ai pas ce terme-là, mais je vois...
Pourquoi des cailloux et des ronces
Je vois un truc abandonné, quoi. Mmh. C'est quoi le délire enfin... Aujourd'hui, je le dis avec ces mots-là, mais à l'époque, j'ai surtout l'étonnement, mais pas de mots qui me viennent immédiatement. Quoi.
Alors, on arrive déjà à la fin de la première partie. On va faire une petite pause et on se retrouve après pour parler justement de la suite et puis de ton propre parcours, puisque c'est aussi le sujet. C'est qu'aujourd'hui, tu es vigneronne, mais depuis déjà quelques années, et on parlera de tout ça dans la deuxième partie. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Sandrine Piva, qui vient nous parler de son parcours en tant que femme vigneronne dans une série de portraits que nous réalisons avec Véronique Charpentier à la photo. Et d'ailleurs, l'expo arrivera dans les mois qui viennent, on vous tiendra au courant. Sandrine, on s'est laissé à la fin de la première partie. Pour résumer, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, donc tu es née, enfin tes parents sont mariés, tu es née. Il y a une idée de trouver un lieu un peu plus sympa pour accueillir notamment aussi les clients qui viendraient acheter du vin, etc. Et puis pour vivre aussi, donc un lieu plutôt fonctionnel, pratique, dans lequel on peut habiter rapidement. Ce qui n'est pas vraiment le cas de ce que vous découvrez avec ta mère quand il vous présente le tas de ronces et les cailloux, quoi, en fait, en gros. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? J'imagine qu'il faut se mettre au boulot quand même. Ça a pris combien de temps d'habiter dedans vraiment?
Alors, nous avons emménagé en septembre 1994.
D'accord. Ah oui, parce que tu avais 6 ans, donc c'était 80. Donc il y avait eu 5 ans.
Eh oui.
5 ans. Et en attendant, c'était toujours l'appartement.
Toujours là-bas.
À Mauricès.
Ouais, toujours.
Ouh, ouais.
Toujours.
Ça se passait bien?
Ah ben on a grandi là-bas, donc il y avait l'urgence, mais on est des paysans modestes. Et à l'époque, il fallait avec nos petits moyens, donc c'était dès qu'il y avait une heure à passer, les parents ont beaucoup travaillé, nous on y allait. Alors papa nous avait acheté des petites brouettes d'enfants pour déplacer les cailloux, des tailles que l'on pouvait transporter pour les déplacer au fur et à mesure du temps.
Oui, vous avez mis la main à la pâte tous alors?
À tous, même mes grands-parents, tout le monde y est mis quoi.
D'accord.
Et tout le monde.
Et enfin, ça y est, 1994, donc, c'est le moment.
Alors, 1994 va être une année très, très importante pour le château. Mmh. Nous, on va emménager, déjà sur place. Et l'association du Castrum de Pommiers va aussi être lancée cette même année.
D'accord.
Donc, parce que quand on était dans cette activité d'enlever nos ronces et de bouger nos cailloux, de nombreux voisins sont venus à notre rencontre. Et puis on a vu des gens passionnés, des gens qui étaient amoureux aussi des vieilles pierres. Et c'est la rencontre entre papa et monsieur Louis de Beauvallon qui va lui suggérer l'idée de mettre en relation tous ces gens qui allaient se voir au sein d'une association. C'est ce qui va se passer. Et l'association du Castrum de Pommiers va être créée en 1994. Le président actuel... depuis quelques jours, c'est plus Jean-Claude, mais il est devenu président d'honneur. Voilà, il est toujours là. Il y a un petit noyau dur qui suit.
Comment tu te sens, toi, à ce moment-là, quand on va dire, tu prends tes quartiers dans...
Alors, je suis ado.
Ouais.
Je suis ado, on quitte donc le secteur du Réolais, on quitte Morizès, je rentre au collège et je rentre au collège de sauveteurs de Guyenne.
Ah oui, donc là du coup,
et que je connais personne
à faire et tout. Ah ouais, donc ça c'est pas forcément confortable.
Non, c'est clair, j'arrive, je ne connais vraiment personne. C'est que mes amis d'enfance vont tous arriver naturellement sur la Réole, sur le collège de la Réole.
Et oui. Et puis c'est important en plus cette transition.
Donc moi j'arrive sur le collège de sauveteurs de Guyenne parce qu'on emménage à cette période-là.
C'est waouh. Et alors tu balances quelques scuds un peu?
Non, au début c'est comme je pense toute première année au collège. Hein. On arrive de plusieurs horizons.
Oui.
Il y a plusieurs écoles élémentaires qui se retrouvent dans ce même établissement. Alors c'est sûr que quand on arrive des mêmes écoles, on a tendance à créer des affinités. Mais il y a des déménagements, il y a tout ce phénomène-là qui va se passer. Et le collège de Sauveterre est relativement familial. Enfin, c'est un petit noyau
collège.
Et ça se passe très bien.
Oui. Puis la sixième, il y a cette sorte de trêve un peu de on laisse les sixièmes tranquilles aussi avant de rentrer dans le dur du collège.
C'est ça. Donc non, ça se passe très très bien.
Et donc, bah voilà, la vie continue, du coup. Oui. Et à ce moment-là, est-ce que tu te dis je serai vigneronne comme papa ou tu as d'autres ambitions ?
Alors, pas du tout. C'est vrai qu'à la maison, il y avait le slogan « vigneron de père en fils ».
Oui, donc du coup, tu te sens
c'était
pas très concernée ?
C'était vraiment pas du tout concernée. mon premier petit frère est arrivé en 87, donc lui, par contre, il a eu la pression très jeune. Hein.
Ah ouais.
Il a été sur les tracteurs très jeune, voilà, il a eu tout ça. Un autre frère arrive en 95, donc non, j'en suis très loin et moi, c'est pas du tout une priorité, et bien au contraire. Moi, je pars faire des études. Donc après Sauveterre de Guyenne, j'arrive au lycée à Marmande, Notre-Dame de la Compassion. Là, je vais faire de la compta. Après, je vais rentrer en BTS, comptabilité, gestion, organisation d'entreprise à la Brède.
Il y a quand même une petite préparation à reprendre la gestion.
Peut-être inconsciemment.
Oui.
Certainement inconsciemment. Et après le BTS, je vais rentrer à la fac.
D'accord.
Bizarrement, là, c'est chose que dans la famille, il n'y a pas eu. Et puis, il
donc
faut payer ses
fac,
études. Papa n'a pas beaucoup. Enfin, papa et maman ont travaillé. Donc, une grosse partie du budget servait à l'éducation aussi de mes deux petits frères. Hein, ils étaient là aussi. Les travaux, le vignoble à faire tourner.
Ouais.
Donc, mon père m'a dit, tu veux faire des études ? Je ne te dis pas non, mais tu vas bosser.
Okay.
Donc, on va travailler dans la restauration.
Les jobs d'étudiant.
Le job d'été.
Tu t'orientes vers quelle sorte d'études à la fac ?
Toujours en compta.
Toujours en compta ?
Toujours
en
compta.
Il y a des études de compta à la fac ?
Oui, ça c'est.
Ah ouais.
Mais j'ai fait un DECF, alors ça n'existe plus, hein, parce qu'entre-temps, moi j'ai fait un diplôme d'études comptables et financières. Ouais.
Études de, pardon ?
Un diplôme d'études comptables et financières.
D'accord.
Moi, j'ai un DECF, ça s'appelle un DECF. J'ai eu mon DCU, diplôme comptable universitaire.
Okay.
Alors, c'était à Bordeaux 4, c'est dans la section IAE, expertise comptable.
Et c'est quoi qui te motive de continuer ce parcours étudiant ?
Moi, dans ma première idée, j'étais plutôt partie sur tout ce qui était contrôle de gestion et expertise comptable. Et j'avais fait le choix de me spécialiser en agricole. Parce que c'est un vocabulaire que je connaissais, que j'avais en famille. Et il y a peu de monde qui veulent s'aventurer sur le monde agricole. Et puis papa me faisait l'accompagner sur les salons internationaux, Vinexpo, Millésime Bio. Donc j'avais le droit de sécher les cours, autorisation de papa avec, trop bien. Pour découvrir cet univers-là, pour l'accompagner surtout. Je parlais un peu anglais, hein, comme tous les étudiants, hein, mais papa pas du tout, donc ça dépannait.
Oui.
Et puis en fait, je me suis pris au jeu comme ça. En discutant avec d'autres vignerons.
Ce que j'allais te demander, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quand même, tu bascules vers finalement la vigne ?
C'est un mélange de plein de choses qui a fait que j'arrivais donc pendant les vendanges, alors que j'étais en stage dans un cabinet d'expertise comptable, et puis je voyais toute cette fourmilière au niveau de la rentrée des vendanges. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Et puis un jour, j'en ai parlé à papa. J'ai dit, t'es d'accord si je reviens sur l'exploitation familiale Je suis par contre, c'est pas pour faire du bureau. Hein. Si je dois faire du bureau, je reste dans mon premier métier, je vais être vachement mieux payé.
Oui, certes, oui.
moi, je veux faire du vin. Dans notre famille, on n'a pas l'habitude de faire des noms francs quand quelqu'un a une ambition. Oui, on va tester.
Okay,
tu veux essayer ? Ok, on essaye, puis on va voir ce que ça donne. Et le plus dur, je pense, ça a dû être certainement pour mon grand-père, parce que pour le coup, il y avait une fille là-dedans qui arrivait.
Ah.
Alors ça, il n'a jamais
clairement exprimé.
Non.
Mais
aujourd'hui, je suis sûre qu'il est tout à fait enchanté, mais je pense qu'à l'époque, ça a dû quand même poser... je suis arrivée en 2006, ça n'a pas été... Alors mon père m'a dit que tu vas découvrir pendant quelques temps, ça te plaît, tu restes, ça ne te plaît pas, tu repars dans ton métier, je ne te forcerai pas. Et puis en fait, je ne suis jamais repartie.
Bah oui, du coup, donc c'est que ça devait aller.
Et du coup, j'ai appris à faire du vin avec papa, avec notre œnologue, on a une super œnologue femme. Aussi.
D'accord. Ouais.
On est super œnologue femme.
Le grand-père.
Certainement, je l'entendais pas spécialement râler, hein, je pense pas, mais ça a fait bizarre. C'est surtout pour changer le slogan.
Oui, parce que c'est plus père
en fils. C'est qu'au bout d'un moment, il a fallu dire non. Et pas non plus de père en fille, parce que.
Parce qu'il y a aussi les frères.
J'avais
qui
mes frères qui étaient là. Donc là, ouais, là je pense qu'il y a eu des crispations avec mon grand-père, certainement à ce moment-là.
Ouais.
Donc on est passé tout simplement, monsieur et madame Pivat et leurs enfants.
Donc finalement, la transition se passe plutôt bien, c'est relativement fluide. Et,
Oh, attends, il y a des accrochages.
Ouais, ouais.
C'est normal, hein.
Oui, bon, enfin, comme...
Il en faut, hein.
Puis quand on travaille en famille, de toute façon, il y a une liberté de parole qui permet aussi, bah, peut-être des accrochages, mais du coup, de dénouer des tensions
avant que ça explose trop.
Oui, voilà. Du coup, donc, cette transition est faite. Et aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on peut parler un peu de ton quotidien dans l'expression de ce métier, qui est de plus en plus pluriel, j'ai l'impression. Parce que le castrum de pommier, bon, il y a aussi donc, cette association qui est là en même temps. Il y a des fêtes médiévales,
oui,
je crois.
Oui,
voilà.
Oui, d'ailleurs, ils vont refaire une. Ils retentent une fête médiévale le 15 juin.
Oui.
Alors, on ne le fait plus au mois d'août. Mais la raison est simple, c'est que les vendanges arrivent de plus en plus tôt.
Oui, maintenant elles sont là.
Au niveau du 15 août, ça commence à devenir compliqué. Nous, dans les préparations des vendanges, ce qu'on n'avait pas il y a 30 ans.
Comme tu le disais, si tu avais voulu devenir riche, tu aurais continué à travailler dans un bureau.
Ah oui, complètement.
Voilà, donc c'est pas l'argent.
Non.
C'est pas la facilité du travail.
Non plus.
Donc.
Il faut autre chose.
C'est quoi? C'est l'envie de perpétuer quelque chose.
La magie.
Là.
La magie.
Ah.
La magie, on part d'un pépin de raisin,
ouais,
pour faire un pied. Ce pied donne une graine, et de la graine, on arrive à une bouteille.
Ouais. Qu'est-ce que, toi, par exemple, on va finir là-dessus, qu'est-ce qui aujourd'hui, par exemple, t'a enrichi dans ta conception des choses, de fabriquer du vin, de le vendre, je sais pas, enfin de ce que ça t'a apporté.
Les échanges.
Vraiment, ouais.
Ah oui, mais que ce soit partout. Ça peut être au vignoble, ça peut être sur les marchés, ça peut être à l'international, les échanges.
Mm.
C'est ça grandit. Ça permet de s'ouvrir vraiment.